Les séminaires du Collège de France.
Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là, courageuses et courageux là, de s'immerger dans de la biologie évolutive plutôt que de profiter de cette belle journée de printemps. Merci aussi beaucoup à Louis pour ses cours et pour cette invitation. Et en effet, Louis m'a demandé de vous parler un petit peu de l'envers du décor. On a parlé beaucoup d'adaptation, mais on va aussi aujourd'hui parler de maladaptation. Je vais essayer de vous montrer un certain nombre de raisons qui nous invitent à penser qu'il vaut mieux concevoir les êtres vivants comme des vieux tacos représentés à droite que comme les Formule 1 représentés à gauche. Vous allez voir qu'il y a tout un tas de bonnes raisons pour ça, et un type de bonnes raisons dont on va parler plus que d'autres, c'est ce que j'appelle la coévolution multi-échelle, qui est représentée ici par ces petites poupées russes, qui symbolisent l'idée que les organismes biologiques peuvent être conçus comme existant à différentes échelles, dans le sens où il y a des individualités imbriquées dans le vivant, et que ces individualités peuvent être des cibles différentes de la sélection naturelle et potentiellement contradictoires, ce qui est une des raisons pour lesquelles à une échelle en particulier, eh bien, on ressemble plutôt à un vieux taco qu'à une Formule 1. Et donc, pour commencer, je vous propose un petit jeu. On va chercher l'intrus entre ces trois objets de forme sphérique, donc une balle de tennis, un œil et un petit galet. Et on va demander un coup de main à Aristote. Et Aristote, qui était un très bon joueur de tennis, n'hésite pas à regrouper l'œil et la balle de tennis en nous disant « Ces deux objets sont le fruit d'un type de cause qu'il appelle la téléologie pour cause finale. » Il dit « À l'évidence, l'œil est fonctionnel, la balle de tennis est également fonctionnelle, elle est faite pour jouer au tennis, l'œil est fait pour voir. » Et donc, pour expliquer ces objets, eh bien, il faut considérer que leur cause, c'est leur finalité. Et si vous posez la même question à Mono quelques siècles plus tard, ben Mono n'hésite pas, lui, au contraire, à regrouper l'œil et le caillou en disant « Ces deux objets sont des objets naturels, ils ne sont pas le fruit d'une intention. Et si l'œil a l'air finalisé, eh bien finalement, ce n'est qu'à travers ce qu'il appelle la téléonomie, c'est-à-dire des objets qui ont l'air d'avoir été faits pour quelque chose et qui sont effectivement fonctionnels, mais qui n'ont pas été conçus dans une intention particulière. » Et donc, il appelle ça la téléonomie en référence, mais également en différenciation avec la téléologie. Et quelle est l'idée qu'il a derrière la tête? Bien sûr, un peu plus d'un siècle après Darwin, son idée, c'est la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est un principe très simple, dont vous avez déjà beaucoup entendu parler ces derniers temps, qui nous permet d'expliquer l'émergence de fonctions sans concepteur. Et donc, ce principe, je le résume de manière simpliste ici. Imaginez l'existence d'entités qui sont capables de produire des copies d'elles-mêmes, c'est-à-dire de se reproduire. Et imaginez que de temps en temps arrive ce qu'on peut appeler une mutation, c'est-à-dire une nouveauté qui a la particularité de pouvoir se transmettre à travers les générations. Donc si vous avez ça, vous avez de la variance héritable dans cette population. Et si ce nouveau trait confère un avantage en termes de survie et de reproduction, par exemple une résistance aux rayons du soleil, eh bien si vous attendez quelques temps, vous allez arriver très vraisemblablement à une situation comme celle-ci, c'est-à-dire que toute la population sera au final doté de cette paroi rouge qui permet de résister au soleil. Donc tout ce processus-là, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. C'est le passage d'un état de la population, qui était une population bleue, et qui est devenue une population rouge. C'est ce qu'on appelle le processus adaptatif ou l'adaptation. Mais ce terme d'adaptation, vous aurez peut-être noté aussi qu'il est un peu taquin, parce qu'il peut non seulement représenter le processus, mais le résultat du processus. La paroi rouge, on peut aussi la considérer comme une adaptation aux rayons du soleil. Et en ce sens, c'est un terme qui est quasiment synonyme du terme de fonction. La fonction de la paroi rouge, c'est de protéger contre les rayons du soleil. Donc on voit que la sélection naturelle nous donne la possibilité d'expliquer les fonctions et donc donne aux biologistes une bonne raison de continuer à penser de manière fonctionnelle sans avoir à reposer sur l'existence d'un concepteur. Et donc on en est ravis et on en fait très souvent usage de ce type de raisonnement. On regarde des objets biologiques, on regarde des structures et on cherche à comprendre leurs fonctions. C'est globalement ce dont la biologie est faite. Mais avec ce type de raisonnement, eh ben, on peut être tenté de tomber dans un piège, qui est le piège de l'adaptationnisme. Alors, Louis se disait un peu adaptationniste, mais il ne l'est pas trop. Hein. Il vous a aussi parlé de tout un tas de raisons pour lesquelles la sélection ne fait pas que optimiser. Mais c'est quelque chose qui n'est pas si rare dans le monde de la biologie. Une position qu'on peut un peu caricaturer en rappelant ce personnage Pangloss qui explique à Candide que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et que si le melon a ses cercles autour, et bien c'est pour pouvoir être mangé en famille parce que ça facilite la découpe. C'est vrai que c'est quand même pratique. Donc évidemment que c'est une caricature, mais n'empêche que quand, dans les années 2010 par exemple, un très gros projet, un consortium international, s'intéresse à la manière dont les différentes parties du génome humain peuvent s'exprimer, c'est-à-dire produire des ARN, et constate que, contrairement à ce qu'on pensait, la très grande majorité de l'ADN humain est transcrit, c'est-à-dire qu'il y a de la production d'ARN. Et bien, quand on fait cette observation, une grande partie de la communauté s'engouffre dans cette idée pour dire « Ah, on vous avait bien dit que ça servait à quelque chose et que ce n'était pas de l'ADN poubelle. » Donc, il y a vraiment cette idée que, puisque ça fait quelque chose, ça doit servir à quelque chose, sous-entendu, ça doit servir à l'organisme qu'on est en train d'étudier. Donc c'est une idée qui est vraiment pas rare, et en particulier en dehors du champ de la biologie évolutive, et je vais vous donner un certain nombre d'arguments pour vous prémunir de cette tentation adaptationniste, en particulier trois raisons sur lesquelles je vais appuyer aujourd'hui. La première, je l'appelle le bricolage de l'évolution, et c'est des choses dont on parlait par exemple Jacob, ou Stephen Jay Gould, ou Richard Lewontin, je vous parlerai un petit peu de ces propositions. La deuxième, c'est quelque chose dont Louis vous a déjà parlé, c'est la dérive génétique. Mais la dérive, c'est quelque chose qui n'est pas si facile à comprendre. Donc je me suis dit que c'était pas mal de repasser un petit peu de temps là-dessus et notamment de vous présenter un travail qu'on avait fait avec un graphiste à l'occasion d'une exposition qui permet de comprendre la dérive de manière assez intuitive. J'espère contribuer à vous aider à construire votre intuition de la dérive et de ses conséquences en termes de maladaptation. Et puis la troisième partie, sur laquelle on passera plus de temps, c'est celle de la coévolution multi-échelle, avec encore une fois cette possibilité que différentes échelles d'individualité peuvent être des cibles contradictoires de la sélection naturelle. On va commencer par le bricolage. Donc, le bricolage de l'évolution, c'est un terme qui a été introduit par François Jacob avec l'idée essentielle que l'évolution, elle fait du neuf avec du vieux. Et François Jacob a appelé ça du bricolage, du tinkering. Il oppose le bricoleur à l'ingénieur. L'ingénieur, c'est celui qui va pouvoir concevoir son objet en l'optimisant de manière neuve, alors que le bricoleur, il fait avec ce qu'il a sous la main, ce dont il dispose, et il va faire quelque chose d'un peu de briquet de broc qui va fonctionner plus ou moins bien. Et François Jacob nous dit, puisque l'évolution repose sur un passé évolutif par définition, eh bien elle ne fait qu'avec ce dont elle dispose, elle fait du neuf avec du vieux. Un exemple, un peu évident, eh bien on est des bipèdes, mais on a derrière nous un passé de dizaines et dizaines de millions d'années de quadrupèdes. Okay, on a marché à quatre pattes pendant très 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 longtemps, et puis il n'y a pas longtemps du tout, sur des échelles de temps évolutives, on est devenu bipède. Cette bipédie, elle n'est évidemment pas complètement optimisée, c'est une bipédie qui fonctionne sur un passé de quadrupède, d'où les tassements de vertèbres et d'où les douleurs au dos que nous connaissons malheureusement tous et toutes. Il y a plein d'autres exemples de ce type. On fait du neuf avec du vieux et donc le système n'est pas optimisé. Cette idée allait à rapprocher des propositions faites par Gould et Lewontin qui ont trait à quelque chose dont Louis a parlé tout à l'heure, la pléiotropie, et qui parle plus généralement des contraintes. Donc il y a un article en particulier très connu de Gould et Lewontin publié à la fin des années 70 qui se veut une critique directe de ce qu'ils appellent le programme adaptationniste, donc on est exactement dans le thème d'aujourd'hui, dans lequel ils insistent sur deux points en particulier. Ce premier, c'est celui de la pléiotropie. On en a vu des exemples il y a un quart d'heure. Le fait qu'un déterminant génétique puisse avoir des conséquences multiples, et ça fait que s'il est optimisé d'un côté, il peut être sous-optimisé de l'autre côté. Il peut y avoir des contradictions entre les différents effets d'un gène et donc des résultats sous-optimaux du fait de cette pléiotropie. Et plus généralement, Gould et Lewontin utilisent la métaphore du dôme de la basilique Saint-Marc à Venise pour nous dire, quand on regarde cette basilique, tout a l'air d'être fait pour une esthétique parfaite. Il y a ces quatre zones qu'ils appellent des spandrels qui sont précisément en plus adaptées au récit biblique qui est fait autour. Donc tout ça a l'air d'être fait pour un souci esthétique. Mais ils nous disent, non, en fait, tout ça est essentiellement fait pour que ce dôme tienne debout. Il y a des contraintes architecturales qui font qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement que de le faire comme ça. Et donc, ils nous rappellent que beaucoup de propriétés du vivant, qui ont pu devenir éventuellement adaptatives par la suite, ont un passé très complexe qui est lié aux contraintes et qu'il ne faut pas interpréter comme de l'optimisation pure. Voilà pour le bricolage. Je vais vous parler maintenant du deuxième type d'argument, de la dérive. Et j'espère, avec ces petits dessins, vous aider à bien comprendre ce processus. Donc c'est un travail qu'on avait fait avec Léo Lescope, qui est un graphiste, qui, j'ai discuté avec lui récemment encore, utilise encore ce processus comme un processus créatif de son côté, et moi je continue à l'utiliser comme un processus scientifique d'explication de la dérive. Donc c'est un petit jeu qu'on avait fait en 2009 à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Darwin. Il y avait une exposition au Parc de la Tête d'Or à Lyon pour aider le grand public à comprendre cette idée de dérive génétique. Donc comment on a fait ça? On a demandé à des enfants de 4 ans de dessiner des petits bonhommes. Donc on a 6 petits bonhommes qui constituent notre population et qui constituent la première génération. Et cette population de petits bonhommes, on va la faire évoluer. Donc pour la faire évoluer, il faut que ces petits bonhommes se reproduisent. Et pour qu'ils se reproduisent, Léo a été à la sortie du musée Beaubourg avec sa tablette graphique et il a demandé à des gens de reproduire chaque petit bonhomme, c'est-à-dire de les recopier. Et donc, plus précisément, pour faire une nouvelle génération, eh bien, chaque petit bonhomme fait 4 bébés. Donc on arrive à 6 x 4, 24 bébés, avec ces 6 couleurs différentes. Et on suppose que ces bébés, ils ont tous la même chance de survie et de reproduction. Ils ont tout. Chaque individu a fait 4 bébés, donc il n'y en a pas qui font plus de bébés que d'autres. Okay. Donc on est dans une situation qu'on appellerait neutre, il n'y a pas de différence sélective entre ces individus. Et on est dans une population où il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a de la place que pour 6, ce qui fait que la population va rester à chaque génération de taille stable, de taille 6. Ça veut dire qu'il va y avoir que 6 individus qui vont être les heureux gagnants, qui vont survivre aux différents prédateurs, aux différents accidents de la vie, aux différentes maladies qui peuvent passer par là. Et donc, on tire les 6 parents de la génération suivante au hasard. Je ne vous montre pas le résultat tout de suite. Est-ce que vous comprenez déjà intuitivement qu'il est tout à fait possible de perdre une couleur quand on en tire 6 parmi ces 24? C'est une possibilité. C'est effectivement ce qui s'est passé à la première génération. On a perdu les roses. Donc, si en une génération, on peut perdre une couleur, qu'est-ce qui va se passer inéluctablement? Allez, on fait ça de manière interactive. Qu'est-ce qui va finir par se passer? J'entends pas bien vos réponses, mais je suis sûr que vous avez compris. On va encore perdre une couleur, et puis encore une autre, et puis encore une autre, et puis la situation inéluctable, ça va être qu'il n'y a qu'une seule couleur à la fin. Eh bien oui, c'est arrivé. C'est arrivé en 20 générations, c'est les bleus qui ont gagné. Et donc là, si vous avez compris ça, vous avez compris la dérive. Vous avez compris que les simples fluctuations au hasard des fréquences alléliques, on dirait en génétique, là c'est les fréquences des différentes couleurs des petits bonhommes, ces fréquences des différentes couleurs changent au cours des générations et inéluctablement, un jour, on va toucher une situation où il n'y a plus qu'un seul type dans la population. D'accord ? En moyenne, ça prend pas très longtemps dans une population de 6. Alors si on avait fait le même jeu avec 100 petits bonhommes au lieu de 6, est-ce que ça serait arrivé aussi? Ça aurait pris beaucoup, beaucoup plus de temps, mais ça serait arrivé aussi. Donc si vous avez compris avec 6, vous avez compris avec 100, vous avez compris avec 1000, vous avez compris avec 10 000, et vous avez compris que ça se produit en permanence. Donc non seulement la dérive fait varier les fréquences, mais elle est même capable de faire gagner un seul mutant ancestral. Okay, il y avait un seul bleu dans la population, ben c'est lui qui a gagné. Il n'avait pas plus de chances de gagner que les autres, mais c'est lui qui a gagné. On va voir que cette petite expérience, elle nous permet de comprendre vraiment beaucoup de choses de la génétique des populations. Par exemple, il n'y a qu'une seule couleur à la fin, mais si on zoome là sur la situation finale, est-ce qu'ils sont tous pareils? Non. Donc ils ont tous la même couleur, parce qu'on a demandé aux gens de les recopier avec la même couleur, mais ils n'ont pas tous la même forme. Qu'est-ce qui a introduit cette nouveauté, cette diversité? Quel est le processus évolutif dont Louis vous a beaucoup parlé? Si on lui donnait son nom technique, ça serait quoi? C'est la mutation. C'est la mutation qui a introduit de la variation depuis un ancêtre commun de tout ce qu'on observe au temps présent. Cet ancêtre commun, il est là, quelque part, à la génération 12. Donc, ce que vous comprenez avec cette expérience, c'est que Le polymorphisme que vous voyez, c'est-à-dire la variation au sein de la population, c'est ce qui a été introduit par la mutation depuis ce dernier événement qui est celui où un individu a donné tous les individus de la population. Cet individu en particulier, on peut zoomer dessus, on peut lui donner un petit nom particulier parce qu'on donne à ce processus-là le nom de coalescence. Le fait que si on fait remonter l'histoire génétique d'une population, on retombe sur un variant unique. On appelle ça un événement de coalescence. D'accord ? Donc si on résume, la variation que vous observez dans la population, c'est ce qui s'est accumulé par mutation depuis le dernier événement de coalescence. Alors cet événement de coalescence, il est marrant parce qu'il nous dit aussi que si on reconstruit l'histoire, eh bien, il y a toute une partie de l'histoire qui est représentée que par cette ligne noire. C'est-à-dire que tout ce qui existait par ailleurs dans la population, on n'en a plus aucune trace aujourd'hui. Ça vous permet de comprendre autre chose qui est assez important et général en biologie évolutive. Si vous êtes un paléontologue et que vous trouvez un fossile de quelque chose, quelle est la probabilité qu'il fasse partie véritablement de la lignée qui a survécu quand vous voyez ça ? Elle est faible. Parce que ce qui a disparu, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus abondant que ce qui est resté. D'accord ? Donc ça vous explique par exemple que quand on trouve des fossiles de la lignée humaine, il faut bien comprendre que c'est des fossiles qui sont la plupart du temps des cousins de la lignée humaine et non pas des éléments de la lignée telle qu'on la connaît. Alors là vous avez vu que j'ai fait un petit saut, je commence à aller plus loin dans l'histoire. Un autre truc qui est intéressant avec ce schéma, c'est que vous pouvez l'agrandir sur l'échelle de temps et imaginez maintenant que ces petits bonhommes c'est des espèces différentes, vous avez le même processus qui se passe. C'est-à-dire que l'extinction des espèces, c'est ce qui représente le fait que tout un tas d'individus de cette population n'ont pas laissé de descendants. De la même manière, tout un tas d'espèces qui étaient présentes au cours de l'histoire n'ont pas laissé de descendants. Donc si on reconstruisait, si on avait réellement l'histoire complète de la diversité, ce serait cette espèce de buisson que vous avez peut-être vu, on en voit maintenant dans les musées d'histoire naturelle, plein, plein, plein à craquer de branches éteintes, qui sont beaucoup plus abondantes que les quelques branches fines qui nous ramène jusqu'à l'origine de la vie. D'accord ? Ces quelques branches fines, c'est celles qui sont représentées par cette très longue ligne noire qui est toute seule. Alors, on a dit tout ça avec de la dérive, avec que de la dérive et avec que de la variation neutre. Vous êtes d'accord ? On n'a pas supposé de différence en termes de succès reproducteur des uns ou des autres. Introduisons un peu de sélection naturelle là-dedans pour voir ce que ça pourrait faire. Introduisons d'abord, pour comprendre l'idée, beaucoup de sélection naturelle. Imaginons par exemple que les roses, au lieu de faire 4 bébés, ils font 100 bébés. Et qu'on va à nouveau tirer 6 individus à la génération suivante. Que va-t-il se passer selon toute probabilité ? Les roses vont gagner. Ben finalement, les roses qui gagnent... Ah, ça m'arrive aussi. C'est qu'il ne faut pas mettre la main dans la poche. Les roses pourraient gagner s'ils avaient produit beaucoup plus de bébés et ils auraient gagné beaucoup plus vite que les bleus ne l'ont fait là. Donc quand il y a de la sélection naturelle, il y a aussi de la coalescence, c'est-à-dire qu'à un moment, tout revient à un seul ancêtre, mais ça va beaucoup plus vite. Donc une des manières de comprendre toutes ces méthodes de génétique des populations qui cherchent des signatures de sélection naturelle, c'est de comprendre qu'elles vont chercher des zones du génome qui ont des temps de coalescence courts, okay, et qui indiquent une sélection naturelle. Donc ça, c'est s'il y a une sélection très très forte. Imaginons maintenant ce qui se passerait s'il y avait une sélection faible. Si les roses, par exemple, au lieu de faire 4 bébés, ils faisaient 6 bébés. C'est déjà un très gros avantage sélectif. On suppose un avantage de 50% par rapport aux autres. Est-ce que néanmoins, on est sûr que les roses vont gagner ? Non. Eh non. Il se peut qu'au hasard, ils perdent quand même. Et donc là, vous comprenez autre chose d'important. C'est qu'en général, quand on veut faire comprendre la dérive, on commence par parler d'une situation neutre, c'est-à-dire une situation où il n'y a pas de sélection naturelle. Et là, on comprend que même si on enlève la sélection naturelle, il y a de l'évolution, et c'est la dérive qui fait cette évolution. Et maintenant, vous comprenez que même si je rajoute la sélection naturelle, il y a encore de la dérive. La dérive, elle agit aussi sur les variants sélectionnés. En quelque sorte, la dérive peut venir contrecarrer ce que la sélection essaye, entre guillemets, de faire de manière déterministe, c'est-à-dire le fait de faire gagner ceux qui font plus de bébés que les autres. D'accord ? Donc là, vous comprenez que non seulement la dérive peut fixer des variants neutres, mais vous comprenez qu'elle peut fixer, pardon pour ce terme technique, fixer ça veut dire mener à l'invasion d'un seul type, okay. Elle peut également fixer des variants qui sont délétères, c'est-à-dire mauvais. Okay ? C'est en ça que c'est un processus qui peut être mal adaptatif. Et pour continuer à boucler un peu la boucle sur cette histoire, si maintenant notre population faisait 1 million d'individus et non pas 6, et qu'on repart sur l'idée que les roses font une fois et demie plus de bébés que les autres, à ce moment-là, les roses ont beaucoup plus de chances de gagner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une petite population, un petit effet sur la sélection naturelle, il est quasiment invisible, au point qu'il peut devenir même complètement invisible. C'est-à-dire que le hasard va complètement contrecarrer les plans de la sélection. Si maintenant vous augmentez la taille de la population, eh bien le même effet sélectif va lui commencer à être visible et avoir un véritable effet sur le destin de la population. Et donc les généticiens des populations réfléchissent en permanence à cette interaction entre taille des populations, force de la sélection, et même concrètement ils font le produit des deux, et avec ça ils ont leur valeur magique avec laquelle ils peuvent prédire le destin d'un allèle. Ok ? Donc on mélange la taille de la population, la force de la sélection, et c'est que de cette manière qu'on peut savoir si un allèle a des chances de gagner ou pas. Ok ? Donc, avec un peu de chance, vous avez bien compris ou mieux compris la dérive, et ça a des conséquences multiples, et notamment il y a des jeunes collègues de mon labo, qui sont des doctorants qui ont travaillé ensemble, sans leur directeur de thèse, qui ont vraiment fait un travail très intéressant, où ils nous montrent que du fait de la dérive, il faut distinguer l'adaptation de ce qu'on appelle la sélection positive par ailleurs. Je m'explique. Quand on fait de l'évolution moléculaire, typiquement le genre de choses que fait Louis, on regarde les génomes, et on est capable, avec un certain nombre de méthodes, de voir quelle est la portion de l'évolution des génomes qui est due à de la sélection positive, c'est-à-dire à de la sélection qui fait gagner les choses nouvelles, typiquement dans une course aux armements contre des pathogènes. D'accord ? Un nouveau variant qui permet de résister à un pathogène très présent, hop, il envahit la population. Et puis encore un nouveau variant qui va à nouveau permettre, etc. etc. Ça, c'est de la sélection positive typique. Okay ? Et en général, on considère que la part de l'évolution du génome qui est de la sélection positive, c'est celle qui représente véritablement l'adaptation. Donc on fait des schémas un peu comme ça. Quand on fait de l'évolution moléculaire, on constate qu'une très grande partie de l'évolution du génome est due à la dérive, mais qu'il y a quand même une partie qui est due à de la sélection positive, et on considère que c'est un synonyme de l'adaptation. D'accord ? Mais réfléchissons maintenant à la suite de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Je vous disais, la dérive, elle peut non seulement faire varier des choses qui sont neutres, c'est-à-dire qui n'ont pas d'effet en termes de valeur sélective, mais elles peuvent également faire gagner des choses délétères. D'accord ? Prenons un exemple un peu plus concret. Par exemple, la taille, dont on parlait également tout à l'heure. Imaginons qu'il y a une taille optimale, c'est-à-dire une taille qui fait qu'on a une survie et un succès reproducteur plus élevé. C'est ce qui est représenté sur l'axe vertical par ce qu'on appelle la valeur sélective, ou je dirais peut-être également fitness, ça peut m'échapper, c'est le synonyme, c'est le mot anglais, et on l'utilise de manière équivalente. Donc il y a une taille qui a la fitness maximale. Il y a des mutations dans la population qui font baisser la taille. Mais la sélection naturelle, elle a tendance à éliminer ces mutations et faire que la population reste très proche du sommet de cette petite colline. D'accord ? Mais que fait la dérive ? Elle fait descendre la population de cette colline. Et donc, que fait la sélection ? Ben, elle fait remonter sur la colline. Et que fait la dérive ? Ben, elle fait redescendre. Et que fait la sélection ? Elle fait remonter. Et donc, il y a un jeu permanent de perte d'allèles avantageux dus à la dérive qui sont regagnés. Et ce qui est regagné, c'est de la sélection positive, c'est ce qu'on voit typiquement comme signature de sélection positive, et pourtant ce n'est pas de l'adaptation du tout à un nouvel environnement, c'est ce que les collègues appellent de la sélection de maintenance. Ok ? Du fait de la dérive, il existe une part de la sélection positive qui n'est qu'une sélection de maintenance et qu'on ne devrait pas considérer comme de l'adaptation. Ok ? En gros, moitié-moitié, c'est ce qu'ils estiment, c'est beaucoup. Ils estiment que la moitié de la sélection positive à l'intérieur des génomes serait de la sélection de maintenance. On a parlé de la dérive et de ses conséquences, et on va maintenant passer à la troisième partie, qui donne la première partie de son titre à mon exposé, et c'est des choses sur lesquelles j'ai plus travaillé, je vais vous en parler plus longuement. C'est l'idée que, au cours de l'évolution, il y a eu des changements d'échelle d'individualité. Il y a eu des regroupements d'individualités de petite échelle en des individualités de plus grande échelle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du fait de ce phénomène, je vais essayer de vous montrer que toutes ces échelles d'individualité continuent à coexister et que ça peut causer certains problèmes. Et pour faire ça, il faut que je commence par vous expliquer comment la biologie évolutive conçoit ce processus d'émergence de nouvelles échelles d'individualité. Et au cœur de ces raisonnements, il y a l'évolution de la coopération. Et pour bien comprendre ça, il faut d'abord réaliser que d'un point de vue évolutif, à première vue, ça représente un paradoxe. Parce que la coopération, dans le sens strict qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un processus où il y a un individu qui est donneur d'un comportement ou qui porte plus généralement une propriété qui est coûteuse pour lui ou pour elle, okay, qui lui coûte quelque chose en termes de survie et de reproduction, mais qui va être bénéfique pour l'autre. D'accord ? Si vous raisonnez, si vous êtes dans la tête d'un Charles Darwin, et précisément il s'est fait cette réflexion, observer des comportements de coopération dans la nature, c'est bizarre. Un exemple typique de ça, c'est une fourmi qui est prête à se battre pour sa colonie, si c'est un soldat, jusqu'à s'arracher la tête dans certaines espèces. Ce n'est pas très rentable, a priori, comme comportement en termes de survie et de reproduction. Okay ? Un autre trait typique des fourmis qui est paradoxal à première vue, elles sont stériles. Et ça, c'est un trait qui est génétique chez elles. Être stérile, ce n'est pas très bon en termes de survie et de reproduction. D'accord ? Donc, il faut réussir à expliquer comment la sélection naturelle pourrait expliquer l'émergence de traits qui sont négatifs pour le donneur, mais positifs pour d'autres individus. A priori, c'est paradoxal. Mais on va voir qu'il y a de belles explications à ça, qui nous permettent finalement de mieux comprendre la sélection naturelle. Un premier type d'explication fonctionne lorsqu'on considère la coopération entre individus apparentés. Typiquement, le cas des fourmis à l'intérieur d'une fourmilière qui sont toutes très apparentées les unes aux autres puisqu'elles sont sœurs et en plus, du fait du type de reproduction assez particulier des fourmis, elles sont plus apparentées que des sœurs dans notre espèce, par exemple. Donc ça, c'est une idée qui a été développée dans les années 60 par quelqu'un qui a beaucoup influencé la biologie évolutive, Bill Hamilton, et qui a développer des modèles théoriques où il adoptait une position gène-centrée de l'évolution. Il disait, pour essayer de comprendre l'évolution de l'altruisme ou de la coopération, il faut adopter un point de vue gène-centré. Imaginez un gène chez un individu gris qui le prédispose à être altruiste. Donc on imagine que, en moyenne, cet individu devrait faire 3 bébés. Sauf qu'il est altruiste, donc il paye un coût, il perd un bébé. C'est le coût de l'altruisme, en moyenne, au lieu d'en faire 3, il en fait 2. D'accord ? Donc il a aidé quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre, s'il lui est apparenté, ce qui est représenté ici par le fait qu'il a la même couleur, il est gris, ben il a toutes les chances de porter également les mêmes gènes que l'autre, c'est-à-dire de porter également les gènes altruistes, si vous m'avez suivi. Cet individu, lui aussi, il devrait en produire 3, mais comme il a reçu un coup de main, il en produit 5. D'accord ? Donc maintenant, on va se demander ce qui arrive à ce gène altruiste dans cette population. Et pour comprendre ce qui lui arrive, il faut faire un petit calcul. Il faut se dire, ok, donc il y a une fitness directe de l'individu, il a fait 2 descendants. 2 au lieu de 3. 3 moins 1 égale 2. Mais il a également un bénéfice indirect qui vient du fait qu'il a aidé son copain, son apparenté, à se reproduire. C'est ce qu'on appelle la fitness inclusive. Et pour calculer la fitness inclusive, il faut comprendre non seulement la fitness directe, mais également le gain indirect du fait qu'il a aidé son copain. Et cette fitness inclusive, elle est ici de 4. D'accord ? Et donc vous voyez que ce gène altruiste, il est coûteux pour le porteur, mais il est suffisamment bénéfique pour le receveur pour contrebalancer le coût pour le porteur. D'accord ? Donc là, on a fait un raisonnement un petit peu simplifié où on suppose que l'autre a exactement les mêmes gènes que le premier. En réalité, il y a un petit calcul à faire. Il faut multiplier le degré d'apparentement par le coût, okay, par le bénéfice, pardon, et comparer ça au coût pour le premier, et vous avez ce qu'on appelle la règle d'Hamilton, qui vous permet de prédire si un trait, à travers sa fitness inclusive, est sélectionné ou n'est pas sélectionné. D'accord ? Vous m'avez suivi ? Vous avez le droit de m'interrompre ou de me poser des questions si ce n'est pas clair. Ça vous permettra peut-être de rester en forme après déjà 2 heures de biologie évolutive dans les pattes. Courage, plus qu'une heure. Donc on a une solution pour expliquer la coopération entre les fourmis au sein de la fourmilière. C'est ce qu'on appelle la fitness inclusive ou qu'on appelle également sélection de parentèle. Mais on va voir qu'il y a une autre solution et une solution qui est beaucoup plus générale parce qu'elle nous permet d'expliquer la coopération entre les non-apparentés. Par exemple, les symbioses mutualistes qui existent entre de très nombreuses espèces et d'autres espèces, typiquement des insectes et des bactéries qui vivent à l'intérieur de ces insectes et qui leur permettent de se nourrir, okay, sur des régimes alimentaires particuliers. Ça aussi, c'est une forme de coopération. Il n'y a pas d'apparentement entre les deux et il faut pouvoir l'expliquer. On l'explique à travers le principe d'interdépendance. Je vais essayer de préciser ça. En commençant par l'idée qu'il existe dans la nature plein de relations de dépendance, okay, et non pas d'interdépendance. Je commence par une dépendance unidirectionnelle, où on a l'organisme rouge qui produit un déchet, par exemple, qui est bien utile pour l'organisme gris puisqu'il s'en nourrit. Okay. Le gris pourrait même être un parasite, utiliser des ressources de l'organisme rouge, et ça s'observe très souvent. C'est une dépendance unidirectionnelle. Ce qu'il nous faut expliquer, c'est comment on arrive à l'interdépendance, c'est-à-dire comment on va passer à une situation où le gris se met à produire une ressource, y compris si la production de cette ressource est coûteuse, qui va être bénéfique pour le rouge. Parce que si le gris commence à faire ça, alors le rouge va dépendre aussi du gris, et on va commencer à rentrer dans un cercle, non pas vicieux, mais plutôt vertueux, de coopération entre les deux. D'accord ? Donc il nous faut comprendre, d'un point de vue évolutif, qu'est-ce qui fait que le gris, qui paye le coût de la production d'une ressource utile à l'autre, peut gagner, en termes de succès reproducteur, par rapport au gris qui ne le fait pas ? Ok ? On retombe sur notre paradoxe de la coopération. Ben, l'idée qui permet d'expliquer ça, elle a été également mise en lumière dans les années 70 par Trivers, à travers ce qu'il a appelé l'altruisme réciproque. Et je vais essayer de vous expliquer comment ça marche à partir d'une condition très générale de l'altruisme réciproque. Alors il y a d'autres modèles, d'autres manières d'expliquer ça, mais vous allez voir que ce qu'on appelle la structuration spatiale, c'est une manière très générale de comprendre les conditions qui permettent l'évolution de l'altruisme réciproque. Ce que j'appelle la structuration spatiale, c'est le simple fait que le monde n'est pas une bassine où tout est bien mélangé. D'accord ? Il y a des patchs de forêt. Et ceux qui habitent dans cette forêt, ils ne se mélangent pas complètement à ceux qui habitent dans l'autre forêt. Donc le monde est spatialement structuré. Et ça, ça a des conséquences très fortes. Imaginons une situation où, d'un côté, on a des gris altruistes. Et de l'autre, on a des gris pas altruistes. Et imaginons que ce monde est structuré. Donc ça ne passe pas ou pas beaucoup, entre les deux côtés. D'accord ? On va se demander si les gris altruistes font plus de bébés que les gris pas altruistes dans un contexte comme ça. Qu'est-ce qui va se passer au cours du temps ? Les gris altruistes, ils produisent une ressource qui est utile pour les rouges. D'accord ? Donc les rouges, est-ce qu'ils vont faire plus de bébés ou moins de bébés à gauche ? Plus, si vous m'avez suivi. Donc au cours du temps, il y a de plus en plus de rouges. Et les rouges produisent une ressource qui est utile pour les gris. Donc à gauche, il y a de plus en plus de gris. Et donc si vous faites la somme de tout ça, et bien vous constatez que la fréquence des gris altruistes augmente par rapport à la fréquence des gris non altruistes. C'est l'idée de base de l'altruisme réciproque, selon laquelle, quand les choses ne se mélangent pas complètement au hasard, et bien il peut y avoir une espèce de retour sur l'investissement au fait d'aider quelqu'un qui vous aide. Ok ? Et si ce n'est pas complètement clair, j'espère que cet autre cas particulier de structuration spatiale va vous simplifier les idées. C'est un peu un cas d'école qu'on appelle la transmission verticale, qui nous permet d'expliquer typiquement pourquoi des bactéries qui vivent à l'intérieur des cellules de leurs hôtes et qui sont donc transmises de manière verticale ont souvent des relations de coopération avec leurs hôtes. Je vais vous expliquer ça avec un petit dessin. Imaginons un organisme gris avec des petites bactéries à l'intérieur. Et imaginons que ces bactéries, par exemple, vivent à l'intérieur du cytoplasme des cellules. Et donc, quand le gris se reproduit, eh bien, les bactéries qui vivent à l'intérieur se reproduisent avec lui. D'accord ? Elles sont transmises verticalement et non pas horizontalement. Elles ne sont pas infectieuses. Donc si vous êtes dans une situation comme ça, vous comprenez que si la bactérie a un effet positif sur son hôte, ben l'hôte va produire plus de bébés. D'accord ? Donc la bactérie se retrouve dans plus de bébés. Donc la bactérie elle-même a augmenté en fréquence dans la population. Finalement, la seule manière pour la bactérie d'augmenter en fréquence, c'est à travers son hôte. OK ? Et donc on est dans une situation qui favorise la coopération et qui favorise l'évolution d'interaction, d'une intégration entre les deux, au point qu'au final, on arrive à une situation où on ne peut plus les séparer et on ne peut plus vraiment considérer que ces deux organismes différents, c'est un seul individu. D'accord ? Et pour bien se caler les idées, on va comparer ça à une situation infectieuse, c'est-à-dire une situation où la bactérie, cette fois, se transmet entre différents individus au cours des générations. Donc si elle est capable de faire ça, ben, ça peut être avantageux pour elle, par exemple, de se multiplier très très vite, y compris si elle tue son hôte, parce que peut-être qu'avant que son hôte soit mort, elle aura réussi à sauter sur beaucoup d'autres individus grâce au fait qu'elle s'est multipliée rapidement. Donc si vous avez compris ça, et bien vous avez compris le raisonnement de base qui est au cœur des modèles d'évolution de la virulence. Quand on essaye de comprendre si un Covid va devenir plus virulent ou moins virulent, on utilise typiquement ce genre d'argument. Est-ce qu'il est très bien transmis ? Plus il est bien transmis horizontalement, plus il risque de devenir virulent parce qu'il peut se permettre de devenir virulent. D'accord ? D'ailleurs, vous noterez en passant que quand on commence à raisonner comme ça, on comprend que les pathogènes, ça leur fait pas plaisir de nous faire du mal. Ils ne nous font du mal que parce que c'est avantageux pour eux de se reproduire très très vite et d'infecter beaucoup de monde. D'accord ? À vrai dire, s'ils pouvaient infecter beaucoup de monde sans nous faire du mal, ils y gagnent aussi d'un point de vue évolutif. D'accord ? Donc il y a un trade-off pour eux, il y a un compromis entre leur virulence et leur transmission. En tout cas, quand il y a de la transmission horizontale, on est dans une situation qui favorise le conflit. Donc je me résume à ce stade. Accrochez-vous. Mais si, si, accrochez-vous, je vous assure, ça vaut le coup la suite. On a deux processus qui nous permettent d'expliquer la coopération et donc, finalement, l'intégration entre différentes échelles d'individualité pour donner de nouvelles échelles d'individualité. On a la coopération entre apparentés qui nous permet d'expliquer pourquoi les fourmis se mettent à coopérer pour faire une nouvelle entité, la fourmilière, qui, à bien des égards, est l'individu. Il vaut mieux penser les fourmis comme des organes sur pattes que comme des organismes. L'organisme, c'est l'ensemble. La lignée reproductive dans cette histoire, c'est la reine. Et d'ailleurs, on utilise exactement le même raisonnement pour expliquer l'origine de la fourmi elle-même. Parce que la fourmi, elle est composée, comme vous et moi, de milliards de cellules qui coopèrent, au point que les cellules de mes doigts font le sacrifice de leur propre reproduction. Ça, c'est pas la peine tout de suite. Les cellules de mes doigts font le sacrifice de leur propre reproduction. Okay, elles ont aucun avenir évolutif. Toutes les cellules de l'organisme coopèrent à travers la production d'une seule lignée qui va peut-être s'en sortir, c'est la lignée germinale, de même qu'il n'y a que la reine qui peut se reproduire. D'accord ? Et les cellules de votre organisme, si elles coopèrent, c'est parce qu'elles ont le même génome. Okay, donc ce raisonnement de sélection parentèle, il nous permet d'expliquer l'émergence de la pluricellularité, la vie à plusieurs cellules, qui a existé maintes fois à travers l'évolution, au moins 5 fois, pour produire quelques géants, les animaux, les plantes, les algues rouges, les algues brunes. Allez-vous m'en citer une autre ? Des organismes qu'on arrive à voir à l'œil nu, qui ont le bon goût d'être pluricellulaires comme nous, qui sont fameux en omelette. Les champignons, bien sûr. Les champignons, c'est une autre lignée qui partage avec nous le fait qu'ils ne savent pas se nourrir de lumière. Ils mangent d'autres organismes aussi. Donc ça, c'est juste un petit aparté. C'est assez intéressant de noter que quand on regarde la diversité du vivant, ce qu'on voit avec nos yeux, c'est une infime partie de l'immense biodiversité qui existe à l'échelle microscopique. En fait, elle n'est pas microscopique, c'est nous qui sommes macroscopiques. La diversité du vivant, elle est essentiellement unicellulaire, d'accord ? À 99%. Pour vous donner une petite idée, avec des collègues, on a fait une sculpture en métal, bien lourde, qui va rester longtemps. Elle est sur le campus de la Doua, à Lyon. Cette sculpture représente le buisson du vivant. Et à la surface de ce buisson, on a des plaques sur lesquelles il y a des dessins. Et ces plaques représentent les différents groupes. On a 47 plaques à la surface de ce buisson et on a triché pour donner une plaque aux animaux. En réalité, les animaux représenteraient une toute petite partie de cette surface, mais quand même, on a donné une plaque aux animaux. D'accord ? Donc, j'espère que ça vous donne un peu une idée de cette immense biodiversité qui existe à l'échelle unicellulaire. C'était un aparté. Donc, on explique, une manière d'expliquer l'émergence de nouvelles individualités, c'est la sélection de parentèle, la coopération entre apparentés. Et il y a également la coopération entre non-apparentés. Donc elle aussi, hein, elle a des conséquences sérieuses. Par exemple, on pense qu'elle est à l'origine de la lignée dite eucaryote, dont nous faisons partie, qui ont des grosses cellules avec un noyau qui contient le génome, et dont on pense qu'elles sont le résultat d'une fusion, d'une symbiose entre des lignées de bactéries et d'archées, qui sont les deux autres très grands groupes du vivant. D'accord ? Et puis le même type de raisonnement explique comment des pucerons survivent grâce à leurs bactéries qui leur permettent de se nourrir de la sève, qui est un régime très déséquilibré parce que les bactéries savent faire tout et n'importe quoi avec du sucre. D'accord ? Et le puceron tout seul ne sait pas faire ça. Des exemples comme ça, on en a à foison. Pour vous dire que ce que je vous raconte là, ce n'est pas une anecdote. Ça s'est produit plein de fois à travers l'évolution. Toutes les fois où on arrive à le comprendre, et ce qui est encore plus démesuré, c'est toutes les fois où on n'arrive pas à le comprendre, parce qu'on a perdu les traces de cette histoire. L'évolution est une histoire de changement d'échelle d'individualité dans une très large mesure, et c'est une histoire de coopération. Pour le coup, on peut faire un petit pied de nez à cette vision un peu caricaturale du darwinisme, de la survie du plus fort. Okay ? La coopération est typiquement une des manières de survivre. Okay ? Et c'est une manière qui est très souvent sélectionnée au sein du vivant. Je vous ai expliqué tout ça, mais je vais vous parler maintenant du fait que ces individualités qui se sont réunies pour en faire des plus grosses, on voit bien qu'elles continuent à exister encore. Et que ça a des conséquences en termes d'adaptation, à travers des phénomènes qu'on regroupe sous le terme de conflits génétiques, qui en quelque sorte sont des manifestations de nos individualités intérieures. Plus techniquement, en fait, ce sont des cibles de la sélection, ça veut dire qu'il y a des phénomènes, je vais vous les montrer, dont il faut, si on veut comprendre ces phénomènes, il faut comprendre qu'ils sont fonctionnels à une échelle qui n'est pas du tout celle à laquelle on pensait initialement. Okay. Les choses dont je vais vous parler, elles sont notamment très bien décrites dans ce livre, qui est un livre assez technique, mais où vous pouvez trouver plein d'informations sur ces questions, Genes in Conflict, qui fait vraiment un tour de cette grande ménagerie des éléments génétiques égoïstes et des conflits génétiques qui en résultent. Je vais vous en donner quelques exemples. On va commencer par les mitochondries. Les mitochondries sont ces structures de la cellule, ces petites structures à l'intérieur de la cellule qui permettent à nos cellules de respirer au niveau cellulaire, c'est-à-dire globalement d'utiliser l'oxygène pour brûler les aliments qu'on mange. Et vous savez peut-être que ces mitochondries sont le résultat d'une symbiose, précisément la symbiose dont je parlais tout à l'heure, entre des archées et des bactéries. On pense qu'à l'origine de la lignée eucaryote, il y a eu cette symbiose avec les mitochondries et on sait ça notamment parce qu'à l'intérieur de ces mitochondries, il reste un génome. Et que si on regarde ce génome, on voit bien que ces mitochondries tombent à l'intérieur d'un grand groupe de bactéries qu'on appelle les alpha-protéobactéries. C'est un très grand groupe dans lequel il y a d'ailleurs beaucoup d'organismes qui vivent à l'intérieur d'autres cellules. Et donc je vais vous parler de systèmes où on voit bien que les mitochondries sont encore des niveaux de sélection efficaces. Ce qu'il faut savoir à propos des mitochondries, c'est qu'elles ne sont transmises dans la plupart des espèces que par les femelles à travers les générations. Pourquoi ? Parce que voilà à l'échelle un spermatozoïde et un œuf, vous comprenez bien que les mamans transmettent beaucoup plus à la descendance que les papas. Là. Les papas, ils ne transmettent qu'un génome, éventuellement beaucoup plus dans des espèces où il y a du soin parental, on espère. Mais tout le contenu de la cellule, le cytoplasme, ça c'est transmis par les femelles et pas par les mâles. En passant, ça fait aussi qu'il y a une possibilité de transmission héréditaire à travers l'œuf qui n'est pas strictement génétique. Des choses dont il serait intéressant de parler, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a des choses qui passent. Là, c'est le contenu du cytoplasme et typiquement, les mitochondries passent. Du coup, les mâles, ben, pour les mitochondries, c'est des impasses évolutives. C'est-à-dire qu'une mitochondrie qui tue un mâle, par exemple, ben, elle n'est pas moins bien transmise à la génération suivante qu'une mitochondrie qui ne fait pas ça. C'est bizarre comme idée. Hein, c'est un élément de notre génome, quelque part, pas de notre génome nucléaire, ce n'est pas le génome du noyau, mais c'est le génome de nos cellules quand même. Ben, s'il nous tue, il n'est pas moins bien transmis que s'il ne nous tue pas. Parce que les mâles ne le transmettent pas. Je parle de nous les mâles. Et ça a des conséquences assez fortes. Donc je vais vous parler, vous avez remarqué, je ne parle pas beaucoup de l'espèce humaine hein, d'ailleurs, mais je vais vous parler de plantes. Mais dans l'espèce humaine, on sait, en rapport avec cette idée, qu'il y a des mutations dans le génome mitochondrial qui sont impliquées dans de la stérilité mâle et qui sont à très haute fréquence par rapport à ce qu'on attendrait d'un gène sous sélection. Okay. Donc c'est bien un cas où c'est vraisemblablement l'absence de sélection contre la stérilité chez les mâles qui fait que ce gène se balade à haute fréquence dans les populations. Donc il y a potentiellement des choses qui sont intéressantes également d'un point de vue médical. Mais il y a un autre truc qui est très rigolo, très intéressant avec ces histoires, c'est ce qu'on appelle la stérilité mâle cytoplasmique qui s'observe dans beaucoup d'espèces de plantes. Donc chez beaucoup de plantes, vous le savez sans doute, un même organisme porte des fonctions mâles et femelles, et souvent même une même fleur est capable de produire du pollen et des graines. D'accord ? La partie mâle et la partie femelle. Et bien, dans beaucoup d'espèces, on trouve des mitochondries qui vont inhiber la production de pollen, et par conséquent, les ressources de la plante se retrouvent redirigées vers la production de graines. Donc ces plantes ne produisent pas de pollen ou moins de pollen, mais elles produisent plus de graines. Étant donné que les mitochondries ne sont transmises que par les graines et pas par le pollen, eh bien ces mitochondries-là augmentent en fréquence dans la population. Elles sont sélectionnées pour faire ce qu'elles font. Autrement dit, la stérilité mâle cytoplasmique, c'est effectivement une adaptation. Mais pour qui ? Pour la mitochondrie, bien sûr, et pas pour la plante. Parce que pour la plante, ça coûte de ne pas produire de pollen. Vous imaginez par exemple une conséquence possible qui est la disparition des mâles dans cette espèce, et donc la disparition de l'espèce. Ce qui d'ailleurs nous permet de toucher du doigt une idée qui est que l'évolution ne sait pas où elle va. Okay ? Il peut y avoir de la sélection pour quelque chose qui va mener l'espèce à l'extinction. Voilà pour les mitochondries et la stérilité mâle cytoplasmique. Je vais vous parler maintenant d'un autre exemple que je connais mieux parce que celui-là, j'ai travaillé dessus. Wolbachia, ça a été mon bébé chéri pendant de nombreuses années. C'est une bactérie qui est intracellulaire, qui est une cousine des mitochondries parce qu'elle aussi, elle tombe dans le très grand groupe des alpha-protéobactéries. On n'est pas chez les plantes, on est chez les arthropodes, donc les insectes et autres sales bestioles, araignées, scorpions, etc., crustacés, et également chez des nématodes, qui sont un groupe un peu éloigné des arthropodes. Elles vivent comme les mitochondries à l'intérieur du cytoplasme de leurs hôtes. Et donc, comme les mitochondries, elles sont transmises à travers les générations uniquement par les femelles et non pas par les mâles. Conséquence, les mâles sont des impasses évolutives. Et de la même manière qu'on a de la stérilité mâle cytoplasmique chez les plantes, eh ben on a des choses assez rigolotes chez beaucoup d'espèces d'insectes, et notamment chez un joli papillon sur lequel j'ai eu le plaisir de travailler pendant quelques années, qui s'appelle Hippolymnas bolina, chez lequel on observe un phénomène de male killing, c'est-à-dire un meurtre des mâles, concrètement. Donc, imaginez un croisement entre une femelle de ce papillon et un mâle, donc il y a un gros dimorphisme sexuel, là. On ne voit pas très bien sur la photo, mais il y a une très belle iridescence bleue qui donne à ce papillon son nom commun en anglais, Blue Moon Butterfly. Et donc, cette femelle infectée par Wolbachia, porteuse de Wolbachia, se reproduit avec un mâle, dont vous allez voir que lui n'est pas porteur de Wolbachia par définition. C'est, à partir de ce croisement, il y a des descendants qui sont femelles et mâles. Voilà des œufs d'Hippolymnas bolina qui sont tout petits. Les embryons femelles se développent normalement et donnent naissance à des chenilles. mais les embryons mâles meurent dans l'œuf. Je vous ai dit tout à l'heure, une mitochondrie qui rend un mâle stérile, c'est pas grave pour elle. Une Wolbachia qui tue un mâle, de la même manière, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'au pire, c'est neutre. Ça n'a pas d'effet sur la sélection sur Wolbachia. Mais là, on est même dans une situation où ça peut être avantageux de faire ça. Pourquoi ? Parce que ces œufs sont pondus en gros groupes sur des toutes petites plantes, ce qui veut dire que quand les chenilles sortent de l'œuf, elles sont voraces et elles n'ont pas beaucoup à manger. Et il y a une compétition pour les ressources qui est très importante. Si la moitié de la descendance n'éclot pas, eh bien, il y a plus de ressources pour les filles, et donc une meilleure survie, une meilleure reproduction et une meilleure transmission de Wolbachia à la génération suivante. On a donc un trait qui est, là encore, une adaptation, mais une adaptation à l'échelle de Wolbachia, qui est bien sûr coûteuse pour le papillon. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit coûteuse pour le papillon ? Ça veut dire que si le papillon était capable de résister à cet effet, il aurait lui-même un avantage sélectif. Et donc vous comprenez que si on pouvait mesurer la sélection pour la résistance, on pourrait avoir une mesure de l'intensité du conflit que ça représente. On a eu de la chance, on a pu faire ça. Et on va parler pour la deuxième fois aujourd'hui des îles Samoa. C'est marrant parce que c'est un tout petit endroit dans le monde. Vous allez voir qu'on a eu la chance d'observer sur ces îles un phénomène d'évolution dont on pense encore aujourd'hui que c'est le phénomène le plus rapide de sélection naturelle jamais observé, c'est-à-dire le phénomène de variation de fréquence allélique entre générations le plus rapide dû à la sélection naturelle qu'on ait jamais pu observer. On est, vous allez voir, très 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 loin des coefficients de sélection typiques qu'on peut voir dans l'espèce humaine et dont Louis vous a parlé. Donc ça se passe aux Samoa, qui sont ces deux petites étoiles ici. Les autres étoiles, c'est tous les endroits où j'ai eu le plaisir d'échantillonner ce papillon. Donc les différentes couleurs représentent le fait qu'il y a des îles où le papillon est présente à très haute fréquence et d'autres où la Wolbachia n'est pas présente à très haute fréquence. Quand elle est présente à très haute fréquence, presque toutes les femelles portent Wolbachia. Donc presque tous les fils meurent. Donc c'est des populations où si vous allez sur le terrain et vous regardez les proportions de mâles et de femelles, vous ne voyez pas beaucoup de mâles. Ces populations des Samoa, elles nous intéressaient particulièrement parce qu'on savait que depuis au moins le début du siècle, c'est-à-dire depuis que des entomologistes se promènent, eh bien on sait que les mâles sont extrêmement rares dans ces populations. Ils représentent environ 1 pour 200, 0,5%. D'accord ? Donc c'est des populations dont on sait par ailleurs qu'elles ne sont pas loin du tout de l'extinction. La moitié des femelles meurent avant d'être fécondées. Et les femelles qui sont fécondées ont une fertilité qui est très diminuée parce qu'elles reçoivent très peu de spermatozoïdes au cours des accouplements. Pourquoi ? Parce que les quelques mâles qui sont là sont fatigués. Vous imaginez la fatigue ? Mais c'est justement ce qui nous intéressait. On voulait aller voir si cette fatigue avait mené à une sélection qui, par exemple, aurait pu faire augmenter les ressources reproductrices de ces mâles, augmenter la taille des testicules. Donc c'est pour ça qu'on s'est baladé là-bas, mais quand je suis arrivé en 2005, j'ai été assez perturbé d'observer une situation radicalement différente à ce que j'attendais. J'ai vu sur une des deux îles plein de mâles, alors que ça faisait 100 ans qu'il n'y en avait pas. Et puis j'y suis retourné un peu plus tard, et sur les deux îles, il y avait des mâles partout. On a ramené sur l'île de Moorea, où je travaillais à cette époque, juste à côté de Tahiti, ces papillons. On a fait des croisements et on a réalisé que ce qui s'était passé ici, c'est précisément ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'évolution de la résistance. On a montré qu'il y a un migrant ou une migrante, on ne sait pas, qui est arrivé de très loin, de quelque part dans l'Asie du Sud-Est, peut-être d'îles de Micronésie qu'on n'a pas échantillonnées et où ce serait déjà présent, parce qu'on sait qu'en Asie du Sud-Est, il y a déjà de la résistance au male killing qui est présente. Et donc il y a un gène de résistance qui s'est trouvé introduit aux îles Samoa, et l'individu qui a apporté ce gène s'est retrouvé en deux générations, le grand-père ou la grand-mère d'à peu près toute l'île d'Upolu. Vous comprenez l'idée ? Ok ? On a là une sélection naturelle d'une intensité extrême qui avait été, c'est intéressant, prédite par Hamilton, encore lui, dans les années 60. Il avait écrit un article dont le titre était « Extraordinary Sex Ratios »,« Sexe ratio extraordinaire », où il avait compris qu'il pouvait y avoir des éléments qui venaient perturber la proportion de mâles et de femelles dans les populations de manière extrême. Et quand vous perturbez de manière extrême la proportion de mâles et de femelles, vous générez une sélection pour la résistance qui est extrêmement importante, parce que si vous êtes dans une population où il y a 1% de mâles, et ben un mâle a en moyenne un succès reproducteur 100 fois supérieur à une femelle. D'accord ? Donc pour vous donner un ordre d'idée, les coefficients de sélection typiques, quand on parle de sélection forte en biologie évolutive, quand on est à 10% d'avantage sélectif, on est déjà à quelque chose d'énorme. Là, on n'est pas du tout à 10%, on est à 100 fois. D'accord ? Et donc l'intensité de ce conflit nous montre la vitesse de ce phénomène nous montre l'intensité de ce conflit. Et du coup, ça nous permet aussi de comprendre une conséquence importante de cette coévolution entre les niveaux de sélection. Donc là, on a typiquement une coévolution entre les différentes échelles d'individualité, j'espère que vous avez compris ça. Et une des conséquences de ça, c'est que, quelle que soit la manière de s'en sortir de cette histoire de male killing, même si vous faites un mâle qui est complètement tordu par ailleurs, ça va être très fortement sélectionné. Et j'ai observé ces mâles, j'ai observé leur comportement dans des cages, et je peux vous assurer que ce n'était pas des flèches. Donc, on a là une illustration de cette idée que la coévolution multi-échelle mène à des tacos plutôt qu'à des Formule 1. Ce papillon ressemblait un petit peu plus à une Formule 1 avant que ce phénomène se passe et qu'on arrive à des mâles de guingois dont on sait qu'ils ont complètement modifié leur système de déterminisme du sexe. On sait que c'est un gène master, c'est-à-dire un gène qui est tout en haut de la cascade du développement du sexe mâle, qui a été modifié, qui a été dupliqué plus exactement, le gène double sexe. Et ça a des conséquences dramatiques sur toute la physiologie de l'organisme. Et néanmoins, c'est sélectionné dans ce contexte-là. Donc c'est une adaptation, mais au final, on a un taco. Ok, on va continuer notre petit chemin dans le zoo des éléments génétiques égoïstes et des conflits génétiques. Et je vais vous parler maintenant de gènes tueurs de spermatozoïdes. On commence à se rapprocher de l'échelle un peu minimale de l'individualité. Je vous ai parlé des mitochondries. Ah, c'est encore... Ok, c'est un peu des bactéries. Je vous ai parlé des Wolbachia. Ok, c'est un peu des bactéries encore. Là, on commence à réduire très sérieusement l'idée. On parle de gènes et on leur donne une certaine individualité. On considère qu'ils sont aussi une cible de la sélection. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Ça se passe chez les drosophiles, ces petites mouches chéries des généticiens. Ça se passe aussi dans plein d'autres espèces, mais ça a été très bien étudié chez les drosophiles. Donc ces drosophiles se reproduisent de manière sexuée, comme on le voit sur cette image, et bien sûr, les mâles produisent des spermatozoïdes. Et pour produire des spermatozoïdes, vous savez sans doute qu'il y a une division cellulaire particulière qui s'appelle la méiose. La méiose, à la différence de la mitose, elle ne va pas produire deux cellules qui ont le même contenu génétique. Elle va produire la moitié de cellules qui contiennent une moitié du génome et l'autre moitié de cellules qui contient une autre moitié du génome en tirant au hasard entre les chromosomes donnés par papa et maman. D'accord ? Dans une méiose normale, si on considère les chromosomes sexuels, donc il se trouve que les drosophiles sont comme nous de type XY, c'est-à-dire que c'est le karyotype des mâles où il y a deux chromosomes sexuels différents, donc c'est les mâles, c'est les spermatozoïdes qui vont déterminer le sexe de la descendance. Donc il y a des spermatozoïdes X qui sont produits et des spermatozoïdes Y. D'accord ? Normalement, ils sont produits en proportion 50-50. Et donc, il y a à peu près autant de mâles que de femelles dans la descendance. Mais dans certaines situations, il y a un X qu'on appelle distorteur. Et si le mâle est porteur d'un X distorteur, eh bien, il produit des spermatozoïdes porteurs de X, mais aucun spermatozoïde porteur de Y. Et le mécanisme de cette histoire, c'est un système poison-antidote avec des gènes qui déterminent à la fois la production d'un poison et d'un antidote contre ce poison. Tant que ces gènes sont là, il y a le poison et il y a l'antidote. Tout va bien. La méiose se passe. Le gène se retrouve sur le chromosome, il est sur le chromosome X, donc il n'est pas dans les spermatozoïdes porteurs de Y. Le poison a une durée de vie, une stabilité plus grande que l'antidote. Et donc le poison continue à être actif, l'antidote ne l'est plus, le spermatozoïde Y meurt. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est évidemment pas très avantageux pour l'hôte, on va y réfléchir. mais qui est encore une fois fonctionnel à une certaine échelle d'individualité qui est celle de ce gène, qui est en quelque sorte un individu dans le sens où ben, vous observez des protéines, vous voyez tout un système, et si vous vous dites à quoi ça sert, si c'est ça votre question, mais il va falloir comprendre que ça sert à tuer des spermatozoïdes. Ok ? Ce qui n'est pas, a priori, le sens habituel d'une fonction, parce que c'est une fonction à une autre échelle que celle à laquelle vous pensez habituellement. Je continue pour vous parler d'un autre type d'éléments génétiques égoïstes et un autre type de conflit génétique. Alors jusque-là, il a pu vous sembler que ce que je vous racontais, c'était un peu des anecdotes sur la biodiversité. Quand on arrive aux éléments transposables, on ne peut plus dire ça, parce que les éléments transposables, ils sont absolument partout et ils constituent, par exemple, plus de 50% de votre génome. D'accord ? La très grande majorité de votre génome, c'est des éléments transposables que je vais essayer de vous décrire maintenant. Et à vrai dire, au bas mot 50%, parce qu'il y a une très grande partie du génome dont on pense que c'est des éléments transposables qu'on n'arrive plus à reconnaître, mais qui sont des restes d'éléments transposables. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Ces trucs ont été découverts par Barbara McClintock dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui étudiait le maïs et qui observait une variation très étonnante de caractère entre différentes parties d'une même plante. Et qui a compris que ça, c'était le résultat d'un phénomène assez bizarre. Elle a eu bien du mal, d'ailleurs, à convaincre la communauté scientifique qu'elle ne racontait pas des sornettes. Elle a émis l'hypothèse que ça pourrait être dû à des portions du génome, qui sont représentées ici par ces petits rectangles jaunes, qui sont capables de produire des copies d'elles-mêmes et donc d'introduire des mutations un petit peu partout dans le génome à très grande vitesse. Et ça s'appelle des éléments transposables. C'est des éléments qui se multiplient à l'intérieur du génome. Donc des éléments qui se multiplient à l'intérieur d'un génome, ça induit des mutations, et a priori, ça ne fait pas du bien à l'organisme, parce que la plupart des mutations, ben, elles vont aller casser des gènes. De temps en temps, il peut peut-être y en avoir une qui est bonne, mais la très grande majorité n'a pas d'effet, puisque il va y avoir des insertions de ces éléments transposables dans des endroits du génome qui ne servent à rien. Mais de temps en temps, ça s'insère dans un gène ou dans une zone régulatrice, et ça, la plupart du temps, quand ça fait ça, ça a des effets négatifs. Okay ? Et pourtant, les éléments transposables sont partout. Comment expliquer ça ? Ben, pour comprendre ça, il faut intégrer le fait que les organismes sont sexués. Barbara McClintock, elle a cherché à comprendre ce que c'était que ces éléments transposables et elle cherchait une fonction plutôt dans le sens habituel du terme. Et il a fallu attendre des décennies pour qu'on comprenne qu'il faut changer de niveau de sélection pour comprendre les éléments transposables. Imaginez cet élément transposable qui arrive dans une population. Alors, on va d'abord faire une petite expérience de pensée. Imaginez qu'on est dans une population qui n'est pas sexuée, c'est-à-dire qui se reproduit de manière clonale. Donc, toutes ces cellules-là vont faire des descendants, d'accord ? Indépendamment les unes des autres. Cette lignée-là qui porte l'élément transposable, elle subit des mutations. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'elle va moins bien que les autres ? Ok ? Dans cette lignée, il y a des éléments transposables, ça ne fait pas du bien à l'organisme, donc ces organismes produisent moins de bébés que les autres, donc on s'attendrait à ce que les éléments transposables disparaissent. Sauf qu'on n'est pas dans un monde asexué, on est dans un monde sexué. Et dans un monde sexué, un allèle normal, il est transmis à un descendant sur deux, à cause de la méiose. Vous me suivez ? Ok, il y a, pour chaque gène, vous avez une copie X, une copie Y, ou une copie A, une copie B. C'est soit A, soit B qui va être transmis à la descendance, mais pas les deux. Si vous êtes un élément transposable et que vous avez sauté partout sur le génome, eh bien vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver dans la descendance, puisque vous êtes sur tous les chromosomes. D'accord ? Donc les éléments transposables, au lieu de se retrouver dans un descendant sur deux, ils se retrouvent dans beaucoup plus. Et donc au cours des générations, ils augmentent en fréquence et finissent par envahir la population. Une autre manière de comprendre ça, qui avait été le point de vue adopté dans cette étude des années 80, qui a été celle qui a expliqué l'existence de ces éléments transposables, de leur logique évolutive, c'est de dire bah, finalement, ces bouts d'ADN qui sautent à l'intérieur du génome, c'est un peu comme des virus intragénomiques. C'est des agents infectieux qui profitent de la reproduction sexuée pour sauter de génome en génome. Parce que la reproduction sexuée, c'est un moment de rencontre entre deux génomes différents. À chaque fois qu'il y a une fécondation, il y a un génome d'un individu qui rencontre un génome d'un autre individu et donc la possibilité pour l'élément transposable d'infecter un nouveau génome. D'accord ? Donc ça m'amène à vous décrire de manière un petit peu générale cette logique des conflits génétiques. Pourquoi les conflits génétiques ? J'espère que les plus anciens d'entre nous apprécient la référence à Orangina. Vous l'avez, non ? Pourquoi est-il aussi méchant ? Ouais. Pourquoi sont-ils aussi méchants ? Pourquoi les éléments transposables ? Pourquoi les Wolbachia ? Pourquoi les mitochondries ? Alors que je vous disais tout à l'heure que quand il y a de la transmission verticale, il devrait y avoir coopération. Eh bien, avec les éléments transposables, on vient d'en avoir un exemple. Le sexe fait que un élément infectieux comme un élément transposable peut sauter de génome en génome grâce au sexe. Le fait que certains éléments soient transmis uniquement par les femelles, donc la transmission uniparentale, fait qu'il peut y avoir un avantage à être avantageux pour un sexe, mais désavantageux pour l'autre. Plus généralement, il y a un phénomène qui nous intéresse beaucoup dans notre équipe et sur lequel on travaille, qui s'appelle le phénomène du transfert horizontal, qui est le fait qu'il y a des morceaux des génomes qui sont capables de se déplacer entre différentes lignées, entre différentes espèces. Donc les bactéries font ça au quotidien. Chez les animaux, par exemple, ça se produit beaucoup moins, mais on sait que ça se produit, en fait. Et les données nous montrent que ça se produit finalement beaucoup plus souvent qu'on ne le pensait. Et on étudie, notamment dans mon équipe, la possibilité que ça se passe dans les relations entre les parasitoïdes, ces petites guêpes qui sont des aliens, pour faire bref, et qui sont très, très, très fréquentes et qui embêtent beaucoup les papillons, qui pondent à l'intérieur des chenilles. Et à la fin du développement, ce qui sort de la chenille, c'est pas un joli papillon, c'est une guêpe. Ou des centaines de guêpes selon les espèces. C'est des parasitoïdes qui vivent donc à l'intérieur d'une autre espèce, et ça c'est typiquement une relation écologique très très proche, dont on pense qu'elle peut permettre le passage d'ADN entre différentes espèces, et je me permets d'en rajouter une petite couche, ce passage d'ADN se produirait par l'intermédiaire de virus. Donc vous voyez encore que ces associations multi-échelles sont impliquées dans tout un tas de processus. Donc le transfert horizontal est aussi une raison qui peut permettre l'émergence des conflits génétiques. Pourquoi ? Parce qu'un élément qui est transmis horizontalement, ça veut dire que son avenir évolutif est découplé de celui du reste du génome. Si tous les éléments sont co-transmis ensemble, s'il y a une co-transmission parfaite, c'est-à-dire s'il y a une reproduction purement clonale, s'il n'y a pas de sexe, donc s'il n'y a pas non plus de transmission uniparentale, puisque par définition, tout est transmis comme mes petits bonhommes tout à l'heure. Vous me suivez ? Imaginons ça, une reproduction strictement clonale. Ça veut dire que tous les éléments du génome sont dans la même galère. Si vous avez une stratégie égoïste et que vous êtes tous dans la même galère, vous allez vous-même payer le prix de votre stratégie égoïste. D'accord ? Mais si c'est possible de s'échapper de la galère, par transfert horizontal ou par reproduction sexuée, ou si à toutes les générations, il y en a une moitié qui part sur une galère et une moitié qui part sur une autre galère, comme dans la transmission uniparentale, alors bien sûr qu'il devient possible d'être sélectionné pour avoir des stratégies égoïstes. Donc en bref, ce que vous pouvez essayer de ramener à la maison, si vous avez réussi à me suivre, c'est que seule une reproduction purement clonale pourrait générer une absence totale de conflit, c'est-à-dire l'émergence d'une individualité qui serait la seule. Sauf que la reproduction purement clonale, ça n'existe pas. Aucun être vivant ne se reproduit de manière purement clonale. Tous les organismes ne sont pas sexués, mais tous les organismes échangent des bouts de leur génome d'une manière ou d'une autre. Et on pense d'ailleurs que ceux qui ne le font pas ne sont plus là pour témoigner, puisque rapidement, à l'échelle évolutive, ils disparaissent. En vrai, il y a quelques espèces qui font ça, mais elles sont toutes en bouts de branche et elles ne sont pas loin de l'extinction, très vraisemblablement. D'accord ? Donc, ça n'existe pas, et donc les éléments génétiques égoïstes, ça existe partout, et les échelles d'individualité existent partout. Ok, donc on a compris qu'il y a de nouvelles échelles d'individualité qui se forment, mais on a compris que toutes les échelles d'individualité coexistent. Alors finalement, si on veut réfléchir à cette notion d'adaptation et de fonction, on est un peu perdu. Est-ce que les fonctions qu'on regarde, c'est celles de l'organisme au sens habituel ? Est-ce que c'est celles du super-organisme ? Est-ce que c'est celles de l'infra-organisme ? Ou de l'infra-infra-organisme ? En fait, toutes ces questions méritent d'être posées. Donc, quand vous êtes un biologiste et que vous observez un phénomène, si vous pensez par défaut « Ah, ça doit être une fonction pour l'organisme que j'étudie », vous avez loupé une grande partie des explications possibles. Et souvent, peut-être plus souvent qu'on le pense, vraisemblablement plus souvent qu'on le pense, vous vous fourvoyez quand vous pensez de cette manière. Donc une manière d'éviter ce problème, eh bien, c'est d'avoir le réflexe cui bono. Alors cui bono, ça fait classe l'élocution latine. Celle-là, on la doit à Cicéron apparemment. Mais Colombo l'a reprise. À qui profite le crime ? Vous savez que ça paye comme manière de réfléchir quand on se demande qui a fait ce truc-là. Bah, à qui ça profite ? Ça peut être très utile comme argument. Okay ? À qui profite cette structure ? Est-ce que je suis en train de regarder des muscles, des os, qui vraisemblablement participent à cet organisme-là qui est en train de vous parler ? Ou est-ce que vous êtes en train de regarder ce phénomène étrange qui est également une fonction, mais qui profite à une toute autre échelle que celle que vous pensiez. Et donc, je m'approche de la fin de mon exposé. Vous allez bientôt pouvoir retourner, peut-être pas au soleil, parce qu'il va se coucher, je crois. Hein. Mais la soirée sera douce. On peut se résumer. J'espère vous avoir convaincu que, même si l'adaptation est évidemment un concept cœur en biologie évolutive, le seul concept qui nous permet d'expliquer l'émergence de la fonction. La sélection naturelle est le seul processus qui permet d'expliquer ça. J'espère vous avoir néanmoins convaincu qu'il y a beaucoup de raisons de considérer les êtres vivants plutôt comme ça que comme ça. Et vous pouvez garder un peu deux questions en tête, comme bon réflexe. Quand vous observez un trait, si vous vous mettez à la biologie, vous observez un trait, la première question à vous poser, sainement, c'est de vous demander si c'est une adaptation, c'est-à-dire si c'est le fruit de la sélection naturelle. Parce qu'il peut très bien que ça soit seulement le résultat de la pléiotropie, par exemple, ou que ce soit le résultat d'une contrainte qui fait qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, ou que ce soit le résultat de la dérive qui a fait n'importe quoi et qui a fixé des caractères délétères. Mais si vous avez de bonnes raisons de penser que c'est une adaptation, si par exemple vous avez des signatures moléculaires de sélection, eh bien, vous devriez vous poser la question de l'échelle de cette adaptation. Quelle est l'échelle de cette adaptation ? Est-ce que c'est celle de l'organisme auquel je pense habituellement ? Ou est-ce que c'est celle du super-organisme ? Ou celle de l'infra-organisme ? Etc, etc. Voilà, j'ai plus que une diapo, je crois, où je vais essayer de terminer par une ouverture et vous parler d'un projet de recherche qui me passionne, avec lequel on travaille avec quelques collègues, et qui est bien sûr en relation avec ces notions de fonction et d'adaptation. Je vous ai dit que les êtres vivants ressemblent plus à des tacos qu'à des Formule 1, mais quand on dit ça, on continue à dire qu'on raisonne de manière fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on continue à dire que ça a du sens, quand on voit une structure, de se demander à quoi elle sert. Okay ? Vous aurez peut-être remarqué que cette manière de réfléchir, elle est propre à la biologie. Et bien, la question qu'on va poser, c'est: est-ce que ça pourrait dépasser la biologie, cette histoire ? Et qu'est-ce que ça voudrait dire de dépasser la biologie ? Qu'est-ce que j'entends par là ? On a parlé de ces multiples échelles d'individualité, okay ? D'individus dans des individus dans des individus. Quand on pense à l'évolution de cette manière, comme des sauts d'individualité, y a forcément une question qui se pose, c'est comment ça commence, cette histoire ? C'est quoi la première échelle d'individualité ? Parce que la première échelle d'individualité, par définition, ce n'est pas une agglutination de petites échelles d'individualité, parce qu'il n'y en avait pas avant. C'est la première. Mais comment ça marche ? En d'autres termes, si on doit recourir uniquement à la physique et à la chimie, comment on va pouvoir expliquer ce premier niveau ? Je ne vais pas pouvoir utiliser mes arguments de coopération, d'altruisme, etc. Ça ne marche pas. D'accord ? Je veux vous présenter deux hypothèses pour réfléchir à ça. Une que j'aime pas et une que j'aime bien. La première, je n'aime pas. Je l'appelle la chance. Selon cette hypothèse, qui, à vrai dire, est assez classique dans la tête de la plupart des biologistes qui se demandent comment la vie a-t-elle pu émerger. Ils se disent, oh, à un moment, il y a un truc qui est apparu, qu'en général on appelle un réplicateur. On imagine volontiers un ARN qui serait à la fois porteur d'une information génétique et porteur d'une capacité enzymatique. Ça fait 60 ans qu'on essaye de les produire, ces bidules, qui savent se reproduire tout seuls. On est très loin d'y arriver. Certains considèrent que c'est juste une question de temps et de moyens. D'autres pensent, comme moi, que c'est un problème conceptuel profond et que ce n'est pas possible de créer un objet de ce type qui saurait se reproduire tout seul. Il y a plein de raisons pour lesquelles je n'aime pas cette hypothèse. D'abord, d'un point de vue expérimental, comme je viens de vous le dire, on ne sait pas les fabriquer, ces bidules. J'aime pas non plus le caractère complètement discontinu de cette idée, parce que dans la nature, il y a beaucoup plus de continuité que de discontinuité. Il est plus vraisemblable que tout ça ait suivi un chemin graduel. Et puis, j'aime pas non plus le problème thermodynamique que ça pose. Parce que imaginez qu'un truc comme ça arrive, quand on étudie la chose de près, ce truc, il faut lui supposer une complexité telle que son apparition fortuite, sous le simple effet de la chance, est à peu près de la même probabilité que la probabilité d'apparition d'un éléphant rose ici même à la fin de ma phrase. Ça n'arrive pas. Ça pourrait arriver. En thermodynamique, rien n'est impossible. Hein. Mais ce n'est pas une explication très satisfaisante. Vous êtes au moins d'accord avec moi sur l'intérêt d'explorer une autre hypothèse. Donc selon cette hypothèse, après, il y a eu de l'évolution par sélection naturelle, et donc il y a eu de la fonction. Ok ? Et toujours selon cette hypothèse, par définition, avant, il n'y avait pas d'évolution par sélection naturelle, j'enfonce une porte ouverte, et donc il n'y avait pas de fonction. Vous me suivez toujours ? L'alternative, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne sait pas penser. Et c'est pour ça que c'est rigolo. C'est l'idée d'une continuité entre le physique et le biologique. C'est l'idée que, au cours de cette histoire, des phénomènes physiques se sont produits qui, petit à petit, ont commencé à ressembler à des objets qui, à un moment, nous sautent aux yeux comme étant des individus. Ce processus, c'est l'évolution. Mais l'idée, c'est que l'évolution aurait pu commencer d'une manière beaucoup plus sale, d'une certaine manière, beaucoup moins intelligible, avec des organismes, par exemple, qui n'ont pas un beau génome bien concentré, avec un système où il serait impossible de différencier le génotype du phénotype, et un système qui, petit à petit, serait peut-être devenu comme les organismes qu'on connaît aujourd'hui, et par exemple, comme celui qu'on appelle LUCA. Vous le connaissez, LUCA ? LUCA, Last Universal Common Ancestor. Si on regarde tous les organismes vivants d'aujourd'hui, et qu'on réfléchit à la tête que pouvait avoir l'ancêtre commun, on arrive à l'idée de LUCA. Mais LUCA, c'était déjà une cellule, c'était déjà des choses très très compliquées. Mais LUCA, ce n'est pas du tout l'origine de la vie. Okay, c'est quelque chose de très éloigné de l'origine de la vie. Et tous les cousins de LUCA ont disparu de la même manière que tous les cousins des petits bonhommes bleus avaient disparu. D'accord ? Et donc, si on réfléchit de cette manière, il faudrait réussir à trouver comment l'évolution pourrait se comprendre d'une autre manière que ce qu'on la comprend aujourd'hui, d'un point de vue plutôt physique, et comment la fonction aurait également émergé. Donc l'idée, c'est que peut-être que si on arrive à comprendre les choses de cette manière, eh ben, à un moment, on va regarder des objets et pouvoir se dire « Ah, je peux le regarder par là, du point de vue de la physique, mais je peux aussi le regarder par là, du point de vue de la biologie, et commencer à me demander « Tiens, cette structure a-t-elle une fonction dans ce système ?» Si vous dites ça à un physicien, il vous dit « Ça va pas, non ? Garde ton finalisme, garde ta téléonomie pour la biologie. » Mais je suis tenté d'aller gratter un petit peu derrière cette idée. Voilà. Je termine en vous mentionnant un article qui est en français. Et voilà, donc c'est pas souvent qu'on en publie en français, que j'ai publié avec mon collègue Laurent Duret il y a une dizaine d'années et qui parle pas mal des choses dont on a parlé aujourd'hui. Et puis je termine en vous remerciant et en remerciant ces personnes qui m'ont aidé à préparer cet exposé, ce laboratoire où il fait bon vivre et bon travailler, je dois dire, le CNRS qui est quand même une boîte sympathique, j'espère qu'elle va le rester, l'Université Lyon 1 qui est également une des tutelles de notre labo et l'ANR qui finance nos projets de recherche. Merci beaucoup.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.